France Culture. Les nuits de France Culture.
Au mois de décembre de l'an 2000, Jeanne Martine Vacher consacrait un numéro de Décibel à l'opéra. L'opéra, le lieu, le théâtre où se jouent les opéras. Une émission dans laquelle étaient mises en vis-à-vis deux conceptions, deux architectures d'opéra éloignées dans le temps et l'espace. D'une part, l'opéra de Paris de Charles Garnier et l'opéra de Pékin, dont la construction était sur le point de débuter. Un opéra de Pékin, ou plus exactement, un centre national des arts du spectacle de Pékin, à propos duquel son architecte, Paul Andreux, expliquait comment il avait abordé les contraintes qu'imposait la réalisation d'un tel édifice. Pour faire dialoguer le dôme elliptique de verre et de titane de Paul Andreux avec la structure de fer et de fonte du palais Garnier, avait été convié dans ce décibel très architectural Gérard Fontaine, spécialiste d'art lyrique et auteur de nombreux ouvrages consacrés à l'opéra Garnier. Une émission qui s'ouvrait avec les élèves et les enseignants du lycée professionnel du bâtiment Hector Guimard à Paris et leurs travaux sur le thème de l'opéra et s'achevait à Drouot pour la vente aux enchères des objets personnels et archives de Maria Callas. Décibel, opéra, quand les bâtiments parlent, première diffusion le 11 décembre 2000 sur France Culture.
Décibel. Je ne sais pas si ce soir, nymphes et bergers se réjouissent de l'accord de Nice. On ne sait pas non plus si la belle Europe est aux enfers, morte ou née, cette nuit de la piqûre de mauvais serpents. Las, l'on n'entendit pas vraiment l'écho d'un chant orphique assez puissant pour la réanimer. Et l'histoire ne dit pas non plus si les négociateurs européens ont ce matin quitté la ville avec l'interdiction de se retourner. Alors, en cette fin de millénaire, accrochons-nous à la seule certitude, celle d'une autre Europe, pour laquelle sans doute personne n'exigera de droit de veto. Elle est née à Florence il y a tout juste 400 ans, résolument avant-gardiste, à la recherche d'un absolu. Elle se donnait Eurydice pour première reine incontestée, la musique et les mots comme ultime pouvoir. Elle commença comme une fable et devint très vite œuvre, l'œuvre à elle toute seule, l'opéra. De Florence à Venise, de Rome à Naples, de Naples à Paris, de Paris à Hambourg, de Hambourg à Vienne, de Vienne à Londres, de Londres à Prague, depuis ses temps des origines, l'opéra n'en finit pas de renaître et de renaître encore. L'air de rien, il est partout, dans ses maisons, mais aussi sur nos écrans, où il insinue ses petits parfums subliminaux, là où on ne les attendait pas toujours. Et c'est le cœur à bouche fermée de Butterfly qui, ces temps derniers, venait contaminer de sa poésie diaphane une publicité de grande consommation. Avec délice, on oubliait le produit, en s'imprégnant pour longtemps de la douceur sinueuse de ce murmure musical. Ailleurs, sur les mêmes écrans, ce sont quelques divines contemporaines, les Fleming, les Dessay, les Bartoli, qui s'offrent au grand public comme un bien de consommation au prix inestimable, détrônant pour quelques secondes d'autres modèles pas vraiment top. Qu'il nous fascine, nous exalte ou nous ennuie, l'opéra, ce jeune vieillard de 400 ans, continue de dévorer tout ce qu'il approche, l'or et le pouvoir, les mythes et une part de nos rêves. Et, il faut bien l'admettre, il a dévoré presque la totalité de cette émission. En effet, là où l'opéra devait être ce soir un sujet parmi d'autres, il est devenu l'unique objet de notre assentiment, le pôle de toutes nos attentions. Alors, une fois encore, sans aucune envie de résister, acceptons de nous laisser manger par lui. L'opéra dans ses murs, nous essaierons de comprendre en interrogeant ses architectures, ses ors, les couleurs de ses matériaux qui parlent et chantent eux aussi haut et fort. Nous irons d'abord visiter un rêve d'opéra, le rêve d'opéra des élèves du lycée professionnel du bâtiment Hector Guimard. C'est Olivier Doubre qui est allé les rencontrer pour nous. Ensuite, nous interrogerons en profondeur cette histoire et ces bâtiments. Nous le ferons avec Gérard Fontaine, spécialiste d'opéra et spécialiste d'architecture et particulièrement de l'opéra Garnier. Et avec Paul Andreux, qui est architecte. Et puis, il y a bien sûr ces grandes divines du 19e siècle, ces Pasta, ces Malibran, ces Sontag. Eh bien, nous tournerons vers une de ces incarnations légendaires, mais du 20e siècle, Maria Callas. Nous l'évoquerons à travers cette ultime vente aux enchères que François Connac a suivie, avant, pendant, après. Et puis, nous en parlerons avec lui, nous ferons un petit peu le point, justement, de toute cette industrie Callas qui ne cesse de produire et de se reproduire. Voilà, l'opéra n'est pas toujours éloigné de l'histoire. On vient d'entendre ce final qui est extrêmement fort parce que sur scène, il y a un film, il y a un dispositif scénique souvent très sophistiqué. Ce final des soldats de Zimmermann qui est cette explosion atomique et le génocide où tout se mêle. Donc un opéra, un des grands opéras de la deuxième moitié du XXe siècle. Et cet opéra-là nous dit que l'opéra aussi peut regarder l'histoire. Alors nous-mêmes, nous allons entrer dans ce sujet en regardant ces bâtiments d'une façon un petit peu particulière et justement voir qu'il rejoint, si ce n'est l'histoire, tout du moins la sociologie. Olivier Doubre est allé au lycée professionnel du bâtiment Hector Guimard à Paris, où une classe de jeunes élèves qui n'étaient pas nécessairement du tout destinés à rencontrer l'opéra s'est attelée à créer autour de l'idée du décor d'opéra et à partir du dôme de Garnier. C'est dans le cadre de travaux que l'Opéra de Paris mène avec l'éducation nationale et avec un certain nombre de classes chaque année. Il faut dire que, contrairement parfois à certaines instances, c'est un vrai travail de fond, c'est un travail suivi où on peut penser que justement ces élèves ont une découverte forte de ce qu'est l'opéra. Alors, on va les suivre et vous allez voir, on entre tout de suite avec Madame Roussel, qui, je crois, s'occupe du centre de documentation. Et la salle de permanence du lycée est transformée en salle Verdi. C'est quand même magnifique, on a envie d'apprendre, non ?
C'est la salle Verdi parce que ça raconte l'histoire de Verdi, de la Traviata. Et les élèves ont travaillé autour de Marie Duplessis et de l'histoire de cette jeune femme.
Vous oubliez l'essentiel, c'est l'ambiance de la salle. Entièrement tendue de tissu rouge, à ramage, et avec une fenêtre, une fausse fenêtre, avec un trompe-l'œil de paysage urbain derrière, enfin, et un aménagement intérieur de qui évoque les salons du 19e siècle.
Donc, bon, ont participé les élèves de mention décor, là, c'est... et les élèves de bâtiment également, qui avaient réalisé la cheminée de façon très, très brute, et les élèves de mention décor ont réalisé ce décor.
Les vitrines sont une réalisation aussi de nos élèves. Plexiglas, bois. Et ça nous permet d'exposer des objets qui, sans cela, seraient à la portée des mains, bien sûr, ce serait impossible. Ou alors, en location des vitrines, c'est absolument hors de prix. Cette salle, c'est une salle de permanence. C'est-à-dire qu'on s'est privé de salle de permanence depuis un mois et demi presque. C'est difficile à entretenir, c'est fragile. Ils ont respecté pendant un mois, pendant toute la durée de l'exposition, avec un ou deux petits accrochages, mais enfin, rien de grave, rien de très sérieux. Mais il faut suivre sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et la salle de permanence, c'est la salle un peu d'exutoire. C'est une salle où on retrouve les élèves qui sont en retard, donc peu motivés, les élèves qui n'ont pas de professeur, donc qui sont en colère. Dès qu'il y aura un problème, un accro, un coup de couteau, un coup de cutter dans le tissu, il y en aura 10. Toute dégradation en entraîne immédiatement d'autres, tags, graffitis, etc. Donc, ce sont des enfants qui sont... Et dans la violence, souvent. Ils sont explosifs, oui, ils se maîtrisent pas.
Après, ils le regrettent. Hein. Oui. Mais le problème, c'est le départ. Ils ont explosé, et puis il s'est passé quelque chose, peut-être parfois catastrophique. Ils le regrettent, mais ça s'est fait.
Oui. Même si c'est son propre travail, le jour où je suis en colère, je donne un coup de pied dedans. Hein.
C'est ça, oui. Mais parce qu'au départ, je leur ai dit où peut se trouver l'Opéra Bastille. J'ai dit, réfléchissez, Opéra Bastille. Alors, il y a quelqu'un qui a dit, il y a une station de métro. Vous voyez ? Et la même chose pour Opéra Garnier. On a fait parler le langage, on fait ce vocabulaire qu'ils utilisent parce qu'ils descendent. Mais ils ne regardaient pas forcément. Donc, petit à petit, ils ont appris à regarder, à entendre... Pour eux, l'opéra, c'est le palais Garnier. C'est un palais. Bastille n'est pas un palais pour eux. Bon, même s'ils aiment bien.
Pour beaucoup de gens, c'est un peu comme ça.
Oui, hein. Mais Garnier, c'est la féerie, c'est magique. Vous les auriez vus dans une loge la première fois. Le spectacle était dans la loge également. Surtout qu'il y avait une jeune fille qui était là, une petite danseuse qui leur a raconté ce qu'elle faisait, qui leur a prêté les jumelles, ses jumelles. C'est un souvenir pour eux inoubliable.
Ouais, donc le dôme qui représente l'opéra de Garnier a été réalisé donc dans un premier temps dans l'atelier de couverture, c'est-à-dire ici même, dans le cadre et dans le style, on va dire, d'un décor de théâtre, ça veut dire des structures très légères. Ensuite, on a tout numéroté, tout démonté. Et reconstruit tout ça donc dans la cour, sur la petite corniche que vous avez vue. Et à partir de là, les élèves sont venus et ont fait une couverture traditionnelle, par contre, d'un dôme. Là, elle a été faite en imitation cuivre, mais c'est de l'inox hein, à l'origine, avec une patine dessus pour imiter le cuivre. Voilà. Donc dans les règles de l'art, le façonnage, donc d'abord tout le boisage croisé, la pose des tasseaux, et ensuite donc la pose des feuilles de métal. On l'a fait à l'ancienne, c'est-à-dire au martelé. Donc c'est des heures et des heures de travail sur la feuille. Donc ça représente quand même énormément de travail, mais bon, tous les élèves ont participé pleinement, et c'est quand même des jeunes qui ont besoin un peu de ça, justement, pour arriver à se prouver quelque chose par rapport au reste de la planète, on va dire. Mais une fois qu'ils sont lancés dans un objectif qui leur paraît vraiment intéressant pour eux, et ils plongent à fond dedans, et puis on voit le résultat, c'est toujours très bénéfique. Hein. C'est une multitude de chantiers qu'on fait et qui aboutissent toujours au même résultat, c'est-à-dire qu'on a toujours des gratitudes, et puis tout le monde est content, on parle les couvreurs, ils sont vraiment enthousiasmés, c'était vraiment super sympathique.
Ils sont fiers.
Ah, très fiers, très fiers, et ils ont raison de l'être.
J'ai fait des tableaux, j'ai participé un peu au rideau, j'ai fait une cheminée en marbre, et j'ai participé aussi à la toile de Mozart. Puis c'est tout. La toile qui est Mozart à son piano. Au début, on n'a pas trop eu le choix. Et puis après, ça nous a plu. Une fois qu'on a fini, franchement, on est fiers de nous.
J'ai travaillé sur le projet depuis le départ. Parce qu'en fait, il y avait des choses qu'on devait faire. L'installation de l'exposition. Puis je me suis formé pour être le guide de ce projet.
C'est difficile d'être le guide ?
Non, c'est pas difficile. Les élèves qui ont fait les dômes, on lui pose des questions, quelle forme que vous avez prise, la mesure, tout ça. Après, on est venu ici pour faire des questionnaires comme ça. Les élèves de sanctionnation des corps, on est parti sur leur atelier, on est parti là-bas pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Si c'est les choses qu'ils ont utilisées pour faire le rideau, ben, on a pris, c'est une question.
Bon, c'est à partir de ce projet que j'ai commencé à aller à l'opéra. Bon, avant, je ne vais pas parce que je me suis dit, je ne me suis pas intéressé, tellement intéressé sur l'opéra. Donc après, c'est après ce projet que je me suis intéressé sur l'opéra.
Et maintenant, ça vous plaît ?
Oui, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Parce qu'il y a des choses bon, qui sont vraiment étonnantes quand on voit les gens jouer leur rôle, en les voyant dans le costume des gens du temps passé. Bon, ça donne envie de voir des spectacles, quoi.
Mais maintenant qu'on a commencé ce projet, je connaissais bien l'opéra. J'ai déjà allé voir une pièce de théâtre plusieurs fois, l'opéra Garnier, l'opéra Bastille aussi.
Vous n'écoutiez pas de l'opéra chez vous, à la maison ?
Avant, je n'écoutais pas de l'opéra, mais maintenant je l'écoute.
Vous êtes fan de quoi ?
Du rock, la musique classique aussi, parce que là, maintenant, je trouve que c'est très intéressant. J'écoutais beaucoup la musique classique maintenant. Parce qu'avant, il y avait beaucoup de gens ici qu'on ne parlait pas avec eux, on venait à l'école comme ça. Comme le proviseur maintenant, ils nous connaissent bien, ils venaient ici, nous serrent la main comme ça. Beaucoup de gens qui ont déjà regretté au mois du mai, parce qu'il y avait les spectacles et tout ça, il y avait le ministre qui est venu ici aussi. Ils ont vu, ah, là j'ai regretté beaucoup, donc je dois participer encore. Il y a des gens qui disent, ah, je vais aller participer l'année prochaine, mais... On ne fait pas la même chose l'année prochaine. On va faire d'autres projets.
Ça s'appelle Tosca, ce disque. C'est du duo Dorfmeister Huber qui est du côté de l'Autriche, qui est un des duos très novateurs dans les musiques techno. Et là, d'ailleurs, sur la pochette, il y a le Stadtoper de Vienne, comme quoi tout se mêle. Et quand je disais que l'opéra résonnait partout, il résonne bien partout. Alors, au fond, ces jeunes de ce lycée que Hervé Guimard, que nous venons d'entendre, et qu'Olivier Goubre avait rencontré il y a quelques mois pour nous, et qu'on gardait justement pour le moment où il serait exactement à la place qu'on avait choisie, et en tous les cas où il nous semblait bien être en écho, ils ont déjà posé beaucoup des thématiques que nous allons aborder ce soir. Et en partant du bâtiment, c'est intéressant parce qu'au fond, le premier bâtiment, l'histoire théâtrale de l'opéra, premier bâtiment, c'est Venise, c'est le San Cassiano en 1637. Alors, entre ce premier bâtiment, qui est le premier bâtiment public d'opéra au sens où on a vendu des tickets pour la première fois, donc on n'est plus dans la cour des princes ni dans les fêtes splendides, mais on est vraiment dans un début du professionnalisme. Depuis, toute l'histoire des bâtiments, de leur construction, de leur symbolique a toujours donné lieu à des soubresauts et des passion, et j'aurais envie de dire en s'amusant que si on faisait un soap opéra à la télévision sur l'histoire des opéras, on pourrait vraiment appeler ça soubresaut et passion. Hein. Et alors, que ce soit Garnier, que ce soit Sydney, que ce soit Bastille, ou que ce soit bientôt Pékin, souvent un mot revient, c'est caprice. Souvent, c'est vrai, on a toujours l'impression que c'est né d'un caprice. Alors ce soir, nous allons les interroger, ces bâtiments, et leur histoire, pour essayer de comprendre l'opéra par ce biais-là. Nous allons le faire avec Gérard Fontaine, qui, en dehors d'être responsable du culturel au Quai d'Orsay, est quelqu'un qui a beaucoup écrit, qui aime l'opéra et qui a beaucoup écrit sur l'opéra, et en particulier deux livres qui ce soir vont nous occuper beaucoup, qui est le premier, Le Palais Garnier, fantasme de l'opéra chez Noésis, et l'opéra de Charles Garnier, architecture et décor extérieur aux éditions du Patrimoine, qui lui est beaucoup plus récent. Il est sorti.
Il vient de sortir à l'occasion de la restauration de la façade.
Voilà. Et puis Paul Andreu, qui est architecte, qui a construit, lui, des grandes œuvres aéroportuaires, entre autres Charles de Gaulle, l'aéroport Charles de Gaulle, l'aéroport de Shanghai, mais aussi le musée maritime d'Osaka, co-signataire de l'Arche de la Défense et du futur Théâtre National de Chine, qu'on aurait envie de réduire en disant l'Opéra de Pékin, mais c'est peut-être une usurpation, et qui donne lieu d'ailleurs à beaucoup de discussions. Et on va pouvoir, en mettant en rapport ces deux moments de l'histoire de bâtiment, essayer d'avancer dans ce thème, de jongler avec quelques-unes des thématiques qui lient ou délient le passé et le présent de l'Opéra. Alors, peut-être, Paul Andreux, pour que nos auditeurs qui connaissent sans doute ou qui ont croisé Garnier, l'Opéra Garnier, et qui l'ont quand même un petit peu dans la tête, pour qu'ils aient une idée de votre bâtiment à Pékin, dont nous avons, nous, des photos, de maquettes ou d'images virtuelles, je voudrais lire un texte qui est de vous et qui est intéressant parce que ce n'est pas simplement une description, je crois qu'il va nous permettre d'entrer tout de suite dans notre sujet. Voilà ce que vous avez écrit à propos de ce bâtiment qui va naître, hein, qui ça commence, je crois, en avril, c'est ça ?
La construction devrait commencer en avril prochain, mais si tout va bien.
Bon, alors vous dites, c'est un bâtiment fait seulement de courbes, qui émerge comme une île au milieu d'un lac. Est-il ouvert, fermé ? Il est à la fois les deux. Les innombrables facettes de sa surface sur lesquelles jouent et se déplacent les lumières du jour et du soir sont en titane gris et en vert qui, l'un et l'autre, changent de couleur avec les heures. Le vert ouvre le bâtiment comme un rideau que l'on écarte, montre ce qu'il contient, des théâtres, des lieux de promenade et d'exposition. Le titane protège et couvre, crée des zones d'ombre plus secrètes. On voit clairement que ce volume immense est une coque, un écrin, l'enveloppe protectrice d'un fruit ou d'une fleur qui s'ouvre. On voit que le titane de l'extérieur est doublé d'une peau intérieure, de bois rouge, sombre, que l'opéra lui-même protège sa salle intime d'un rouge éclatant par une enveloppe dorée assez transparente pour que tous les déplacements des spectateurs qui entrent et sortent soient perceptibles de l'extérieur. On voit que les surfaces extérieures de l'auditorium et du théâtre sont de couleur argent. On voit partout des gens, dans les rues intérieures, dans les places intérieures et les foyers surélevés, dans la galerie transparente qui, sous l'eau du lac, relie le bâtiment à la terre ferme. On voit, dans ces déplacements sans fin, la vie d'un bâtiment qui est devenu comme un organisme à la fois simple et complexe, à la fois évident et secret. Gérard Fontaine, est-ce que Charles Garnier a écrit une telle intention générale et est-ce qu'elle résonne avec ce que Paul Andreux vient de lire ?
Si on écrivait, on pourrait écrire pratiquement du Palais Garnier tout ce que vous venez de lire. C'est très extraordinaire. Il y a un ou deux détails qui ne sont peut-être d'ailleurs pas des détails, c'est Paul Andreux qui nous le dira, du point de vue de l'approche qui est la sienne, mais peut-être en dehors de l'idée que votre projet, votre bâtiment futur sera à la fois ouvert et fermé. Ça, c'est pas le point de vue de Garnier qui avait voulu, au contraire, faire une bulle aussi close que possible, une bulle de rêve, mais comme vous, exactement la même idée directrice. C'est très, très frappant. Mais sinon, j'ai noté à mesure un certain nombre de termes quand vous lisez ce texte que je ne connaissais pas, mais qui me paraît, c'est vraiment très impressionnant. Par exemple, le changement de couleur avec les heures. Qui introduit un mouvement naturel dans votre bâtiment. Garnier l'introduit, lui, par les spectateurs, mais c'est le même... D'ailleurs, je sais que vous avez pris en compte, enfin, du moins, me l'a-t-on dit, vous allez peut-être nous me dire le contraire, mais je sais que vous avez pris en compte aussi le mouvement des spectateurs. D'ailleurs, c'est dans le texte, suis-je bête. Vous l'avez dit, quelque part,
C'est-à-dire qu'ils font partie du spectacle, c'est-à-dire l'idée de Garnier, Gérard Fontaine, que vous montrez très bien vous-même, c'est-à-dire l'idée que la totalité du bâtiment est théâtre. Le spectateur entre dans l'idée du théâtre.
Opéra permanent, autrement dit, comme on dit, un cinéma permanent. C'est un théâtre qui joue tout le temps, grâce à ses spectateurs. Mm-hmm. Et que le spectacle soit bon ou mauvais, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas un spectacle, les gens passent une soirée de rêve, celle qu'ils sont venus chercher. Puisque c'est ça l'enjeu de l'exercice.
On peut dire d'ailleurs qu'à Garnier, ça fonctionne même quand il n'y a pas de spectacle.
Absolument.
Cette action, va se promener dans ce lieu hors spectacle. On a cette impression.
Paul Andreux. Et moi, c'est quelque chose que dans le projet de Pékin, qui était dans son programme et que moi, j'ai voulu développer au maximum, c'est effectivement cette fréquentation par des visiteurs de tout l'ensemble de l'opéra et des autres salles, pour la double raison qu'un investissement de cet ordre, il faut qu'il ait une espèce d'utilité sociale la plus grande possible. Et puis, pour un effet semblable à celui du Centre Pompidou, finalement, d'amener des gens pour des raisons qui peuvent paraître futiles,
peut-être
aller voir la ville, les approcher de la culture, leur faire frôler la culture. Et vous savez, par exemple, j'ai mis dans les circulations qu'emprunteront les visiteurs autour des théâtres, j'ai mis des fenêtres qu'on fermera bien sûr au moment et qui sont protégées par du VRP, qu'on fermera quand il y aura des spectacles, mais qui permettront aux visiteurs de voir l'intérieur des théâtres, hein, dont j'espère qu'on ne les éteindra jamais tout à fait, de manière que oui, cette réaction des élèves qui disaient quand on était dans la loge, c'est, eh bien, je pense qu'ils iront mettre leur visage contre la vitre et peut-être certains vont attraper le virus.
Alors, Paul André, dans le livre de Gérard Fontaine, sur cette, sur Garnier, c'est un livre, je dois le dire, qui est tout à fait passionnant parce qu'on va d'un détail à un autre et on comprend à la fois toute l'histoire de ce bâtiment, mais toute l'histoire de l'opéra et toute sa symbolique. Gérard Fontaine vous montrait combien Garnier a voulu faire du nouveau, de l'inouï, de l'inconnu. Est-ce que vous, Paul André, face à cet opéra, enfin, c'est pas l'opéra, c'est un grand théâtre, mais où il y aura un opéra à construire, vous avez eu cette même problématique? Qu'est-ce que vous vous êtes dit en premier face à ce projet-là? Je suppose que c'est pas la même chose quand on est face à un aéroport ou face à un...
Si, mais je me suis dit deux choses complètement séparées. Je me suis dit, la première, il faut que ça fonctionne. Hein, et c'est un fonctionnement terrible aujourd'hui. On amène les décors par des containers, ce sont des coproductions, il faut que les containers rentrent, sortent, que les niveaux des scènes soient bien définis, que les camions puissent y arriver, que je sois irréprochable là-dessus. Et puis après, on n'en parlera plus. On en reparlera, mais enfin, dans mon concours, déjà, je m'appuie sur cette espèce d'infrastructure. Et ensuite, je ne me suis posé qu'une question, c'est comment peut-on prendre quelqu'un dans la rue et l'amener progressivement dans une salle où on fait de l'opéra.
Donc vous ne vous êtes pas posé la question de quelle est la symbolique, sur quel mythe je joue?
Non. Non, mais c'est, vous savez, ça c'est les choses qu'on trouve après. Hein. Je veux dire que passant par cette idée que c'est un passage, une transformation, un lieu de après viennent des intuitions et viennent s'agglutiner des choses que vous lisez après, hein, que vous découvrez dans ce que vous avez fait et que vous développez dès le moment où elles sont devenues claires. Alors vous empressez de les développer petit à petit, comme ça vous enrichissez votre projet.
Je pensais à Garnier tel que Gérard Fontaine nous raconte sa volonté très très maîtrisée de tout ce qu'il a voulu mettre. Il y a tout l'aspect symbolique, mythologique, toutes les références, alors, c'est une autre époque toutes les références qui sont innombrables, hein. C'est-à-dire Garnier fait de la référence très précisément mythologique ou musicale et en même temps philosophique avec la lyre qui est absolument partout, hein, et donc Apollon avec tout ce que ça signifie au niveau de la musique. C'est très frappant ça chez Garnier, c'est délibéré, c'est pas une commande, c'est...
démarche symbolique extrêmement forte. Mais moi j'ai un peu le sentiment que chez Paul André il y a un équivalent mais qui est beaucoup plus intellectuel, qui est beaucoup plus contemporain aussi, qui est beaucoup plus adapté à la sensibilité très dépouillée de nos jours. On ne sait plus, c'est un des problèmes d'ailleurs d'appréciation actuelle du Palais Garnier, à mon avis, c'est que le Palais Garnier est probablement trop chargé et qu'on n'a pas vu le côté, par exemple, comme chez vous, il y a une technique impeccable derrière Garnier,
qui certainement,
mais cette je n'en parlais que par contraste. Vous avez raison, ça mérite d'en parler plus, pas seulement par allusion, mais certainement le côté très sensuel, très lourdement sensuel, une espèce de torrent d'images que l'on trouve chez Garnier, était adapté à la sensibilité et à la conception artistique du 19e siècle, alors que l'art contemporain, tout le 20e siècle est là pour le démontrer, et beaucoup plus, fait une part beaucoup plus large au plaisir intellectuel, et à l'idée, souvent, à des idées extrêmement épurées, le rapport à la lumière, le rapport à l'eau, le rapport... Je crois que c'est une symbolique qui est présente, d'après ce que j'ai compris dans votre démarche, et qui est un équivalent contemporain, pour répondre tout
sensuel,
à fait à votre question.
Vous parlez du sensuel, et Paul André, je lisais à propos de votre projet qu'il y avait une recherche d'une érotique de l'espace, de retrouver...
Il y a la courbe en commun, ça chez Garnier comme chez Paul André.
Mais, voyez, en même temps... Moi, je me faisais la réflexion en voyant dans le livre Gérard Fontaine. Il y a quelques images où on voit l'opéra en construction, et en particulier les images très touchantes où les sculptures ne sont pas Garnier, tirées des blocs de Garnier. Ah, oui. Hein. Et j'ai l'impression d'une femme de cette époque en peignoir. Hein. elle est toutes ses formes. Elle est, ouais. Le bâtiment est encore bon. Hein, il n'a pas tout. On attend la robe, l'habit qui va suivre. Mm. Et je suis convaincu que Garnier est allé dans cet ordre. Quand on voit l'autorité de son plan, enfin cette espèce de rigueur folle. Hein, celle-là, elle est au début. Hein. Ces volumes, moi j'ai toujours... quand je me suis mis à aimer Garnier, je me suis mis à l'aimer non pas pour ses ors, mais pour l'évidence de la mise de ses fonctions. Quoi. Ouais. Hein. On voit tout. Un premier volume d'entrée de foyer. Ensuite, la coupole, c'est la salle. Ensuite, un toit à deux pentes. Enfin, la chose la plus simple du monde. Hein, et un bâtiment de bureau par derrière. Ça, c'est la scène.
Mais c'est vraiment l'œil de l'architecte.
Et un bâtiment de bureau par derrière. Mmh. Et le tout lié dans une espèce de phrase formidable, de liaison extraordinaire qui en fait d'une urbanité folle, et qui est prête à recevoir alors tous les détails que vous disiez, toute cette sensualité. Mmh. Elle vient après. Et cette dame en peignoir. Elle peut en rajouter dans l'ornement, mais tant qu'elle veut.
Gérard Fontaine, c'est
Je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Oui. Le fonctionnalisme fondamental de Garnier, et qui ensuite porte tous ses développements, ses variations, ce qui est une démarche fondamentalement musicale, mais sur un thème extrêmement rigoureux, extrêmement... C'est un bâtiment génial pour cela.
Mais là, en vous lisant, Paul Andreu, là, je fais du ping-pong entre les deux bâtiments. À l'instant, hein, je vais parler d'une pensée qui m'est venue au moment où je lisais la description de votre bâtiment. Moi, ça m'a fait penser à un sexe féminin, cette description. Je vous le dis tel que je l'ai pensé. Cette espèce de... D'ailleurs, vous-même, vous dites cette enveloppe potristice d'une fleur qui s'ouvre et vous donnez des couleurs et vous donnez cette chose qui n'est jamais tout à fait donnée et qu'il faut aller chercher dans ses secrets. J'ai trouvé ça très frappant, le lisant. Gérard Fontaine, ça ne vous a pas frappé
Ça
symbolise de l'érotique, vous parliez. Hein.
Oui, oui. Mais il y a toujours ça. Enfin, c'est... dès qu'on se met à parler de plaisir, de naissance, on est très proche effectivement de ces évocations de sexe.
Le sexe, oui, malheureusement, est souvent très près de la mort, parfois, dit-on. On va écouter justement quelque chose qui est de l'ordre de la mort.
Tenesse la promessa, la disfida ebbe luogo, il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in cranio suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato, egli a voi tornerà, quel suo perdono, io pur verrò, curatevi, mercate un avvenir migliore, Giorgio Germò, è tardi. Thank you.
Voilà, une Traviata. Alors, François Connac et Gérard Fontani sont deux très grands amateurs d'opéra qui sont en face de moi, sont très énervés parce qu'ils n'ont pas trouvé qui chantait. Et alors, c'était Claudia Muzio.
Ah, Claudia Muzio, voilà, bien sûr. Hein,
Claudia Muzio, oui. Enregistré en 1935, bien sûr. J'aime ce bien sûr. Évidemment.
Oui, il n'avait rien.
Je n'ai pas été complètement pris en défaut.
Une chaîne musicale où entre 26 toujours les auditeurs en disant « Vous aviez reconnu, bien entendu, Claudia Muzio, donc en 1935, qui chante, qui, donc cet extrait des Introuvables du chant verdien qui vient de chanter chez EMI et où André Tuboeuf écrit d'ailleurs à propos de cette interprétation, il aime la lettre, lui, la lecture de la lettre, et il dit finalement on est toujours en train de célébrer les mêmes, ce que nous ferons peut-être tout à l'heure d'ailleurs, mais il faudrait écouter tout le monde pour être sûr qu'on a bien tout entendu. Voilà, donc c'était Claudia Muzio dans cette Traviata. Alors on va retourner à nos bâtiments. Et se poser la question de la modernité, Gérard Fontaine, Garnier est très très mal jugé au regard de la modernité. Évidemment, nous on le regarde d'où nous sommes. En fait, c'est un bâtiment, vous le montrez, qui avait une volonté vraiment de s'inscrire dans la modernité, de la technique et même de la référence d'ailleurs.
Oui. Ah oui, Garnier était certainement, c'était un, je dirais plus qu'un un génie, c'était pas un technicien, c'était pas un ingénieur, contrairement à Monsieur Andreux qui était au départ un ingénieur et un architecte. Garnier, lui, était dans la tradition Beaux-Arts où on était architecte créateur, enfin une conception de l'architecte qui n'a plus vraiment cours aujourd'hui. C'est vraiment l'esprit des Beaux-Arts d'antan. Et mais il avait le sens, un sens extraordinaire de la technique. Il a d'ailleurs, ce qui est assez peu connu, il a beaucoup travaillé avec Eiffel. Et avant de travailler avec Eiffel, il a pris en compte toutes les techniques qui étaient à l'époque parfaitement, en fait, la pointe de la technique contemporaine de construction, ce qu'on appelait la construction, l'architecture des ingénieurs, c'est-à-dire l'architecture de fer. Et c'est ainsi, par exemple, qu'il a construit sa salle en fer, en réalité. C'est-à-dire que les points d'appui, les supports principaux sont des colonnes de fonte. Le plancher ne repose pas sur une voûte. Il y a une voûte en dessous, mais qui est une fausse voûte. Ce sont des planchers de fer. Les balcons sont évidemment des supports de fer. Et au-dessus, il y a un dôme, une coupole d'abord, qui est en cuivre. Recouverte aujourd'hui du plafond de Chagall, et au-dessus il y a une admirable charpente métallique qui soutient le dôme que l'on voit de l'extérieur.
Alors ça c'est pour dire le fondement, la carcasse, mais vous montrez bien que dans tous les détails, ce qui concerne même l'or par exemple, la façon dont il l'a travaillé est la recherche de la technicité la plus contemporaine.
La plus contemporaine, la plus ancienne dans le cas de la dorure, parce qu'en réalité c'est une technique de la Renaissance qu'il avait retrouvée en Italie, que tout le monde avait oublié, que personne ne connaissait en France, et même en Italie, je crois qu'elle était oubliée, et qui lui a permis de maîtriser l'or, parce qu'il tenait à ce que sa salle soit dorée, et pour lui, ça faisait partie d'une symbolique très très précise. L'or, c'est le métal des dieux dans tous les imaginaires, donc il était important dans cette salle qu'il y ait une présence d'or importante. Mais en même temps, il trouvait que ça faisait un peu canaille. L'or neuf, c'est effectivement un petit peu clinquant. Il tenait à ce que ce soit le maîtriser artistiquement. Et en même temps, il y avait aussi des considérations financières, évidemment. Mais c'est surtout, la considération artistique qui a primé. Donc, il a adopté cette technique. Mais par exemple, en technique scénique, il a construit une scène qu'il n'a pas pu achever pour des raisons à la fois de délai et de crédit, parce qu'il aurait fallu 2 millions de francs or de plus, qu'il faut multiplier par 60 pour vous donner une idée de la somme que ça représente. Donc il a dû y renoncer. Mais s'il avait pu la construire, c'était une scène qui était, du point de vue de l'histoire de la scénographie, digne de 1920. C'est-à-dire qu'il y avait 50 ans, un demi-siècle d'avance.
Paul Andreux, ces considérations-là pour vous, c'est-à-dire être innovant techniquement, est-ce que c'est important dans votre projet de ce grand théâtre de Pékin ou pas ? Ou est-ce que c'est si besoin est, mais c'est pas une démarche ?
C'est seulement si besoin est dans le cas particulier. Moi, je me pose plutôt la question, vous voyez, de savoir. Qu'est-ce que je dois faire dans un certain nombre d'endroits très visibles et je veux dire qui sont prégnants dans le bâtiment? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois utiliser des matériaux justement extrêmement d'une technique très évoluée, mais qu'on va importer? souvent ou qui vont être dépourvus, comment dirais-je, de toute trace de travail, ou est-ce qu'il faut pas mieux que je mélange des choses extrêmement techniques, d'une technicité très évoluée, avec d'autres ouvrages dans lesquels la main d'œuvre qui est là en grand nombre, disponible, bonne, peut intervenir. Est-ce que c'est peut-être que c'est l'un des derniers moments où là, compte tenu des progrès des gens, je vais pouvoir avoir cette main d'œuvre. Mmh. Et au fond, j'ai par exemple envie d'avoir beaucoup moins cette pierre qu'on voit à tout va dans tous les hôtels, vous voyez, merveilleusement taillée, machin truc, mais ennuyeuse à périr. Hein, et puis essayer d'avoir des choses qui soient de la laque, de la peinture, enfin quelque chose où la trace de la main se retrouve. Ou quand je fais une ossature métallique, trouver une ossature métallique qui ne soit pas la plus performante qu'on puisse faire aujourd'hui, mais ce mélange de performance, pour faire le dôme, il en faudra, et en même temps de, comment dirais-je,
d'humanité, d'une certaine façon,
à travers la quantité. Je dessine des choses où il faut des kilomètres de soudure, parce que je sais que là, on peut le faire et que peut-être il n'y en a plus pour très longtemps.
Les Desi Boys. Voilà, alors le micro était mis et nous étions en train de rire parce que l'air des cartes que vous entendez, alors nos invités se sont demandé tout à l'heure qui était la cantatrice, maintenant ils se demandent en quelle langue c'est chanté. Eh bien en chinois. C'était Carmen en chinois, enregistré en 1982. C'est une première mondiale. Paul André, je suis ravie d'avoir pu vous faire découvrir ce que donnait Carmen en Pékin, puisque vous êtes beaucoup. Hein, donc vous voyez que c'est très audible très et le aimé. Timbre était très beau, François, très beau. Vous êtes d'accord,
hein. Très beau matériau. Bon.
Alors justement, on va s'attarder un peu à la question de l'acoustique. Cette acoustique qui est l'objet de très très grandes passions. Parce que si on prenait par exemple les articles, tout ce qui s'est dit autour de Bastille, un des points de focalisation haineux était l'acoustique. C'était vraiment, tout le monde parlait de cette acoustique. Et Berlioz, lui, en son temps, parlait de l'acoustique de la salle Le Pelletier. C'est drôle d'ailleurs de voir que les critiques sont souvent les mêmes sur les opéras nouveaux. Hein. C'est l'acoustique. C'est la froideur, c'est la distance. On retrouve vraiment les mêmes choses. Et alors, Paul André, j'ai trouvé dans un de vos textes quelque chose qui m'a paru une idée intéressante, qui était que l'acoustique, la notion d'acoustique, était nationale.
Oui.
C'est-à-dire que ça change selon les pays. Effectivement, on n'a pas la même, on n'attend pas la même chose, on n'entend pas la même chose.
Oui, ce que m'a dit l'acousticien qui travaille avec nous, qui est Jean-Paul Vian, c'est ça. À un certain moment de l'étude, il m'a dit, écoutez, je vois que vous vous intéressez beaucoup à ça. En fait, je m'y intéresse beaucoup et je n'y connais pas grand-chose au départ. Hein. Mais c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup. Et il m'a dit, il y a une esthétique de l'acoustique. Hein, c'est pas une valeur en soi, l'acoustique. Il y a une esthétique de l'acoustique. J'ai déjà pris un certain nombre d'options, mais maintenant, parlons-en. Et il m'a dit, effectivement, si vous, généralement, en Allemagne, on va préférer une acoustique très, très ample, très, 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 hein, dans lequel l'effet de masse sera mis en valeur. On va être beaucoup plus analytique en France, en général. En Angleterre, on va mettre en valeur les chœurs. C'est pas tout à fait la même acoustique. Et donc, moi, il faut que je peux régler avec vous la salle d'une certaine manière. Bon. Donc, c'est vrai que, et à ça se rajoute alors quelque chose qui n'est plus quelque chose de localisé, mais qui est un autre effet culturel, c'est que les gens qui vont maintenant à l'opéra essaient de réentendre ce qu'ils ont entendu dans le disque. Hein, et que ça, ça pousse aussi certains, et d'autres disent ne faites jamais ça, ça pousse aussi certains à faire une acoustique un peu particulière qui renvoie ce qu'on a entendu dans le disque.
Gérard Fontaine, par rapport à Garnier, comment ça s'est passé?
Je vais invoquer son témoignage, qui est assez drôle d'ailleurs, parce qu'il raconte d'abord que, comme vous, il a consulté des spécialistes de l'époque, naturellement, peut-être les connaissances n'étaient pas aussi avancées. Bref, on lui a donné toutes sortes de conseils. Alors, il a fini par se dire, pour réussir l'acoustique d'une salle, faut qu'elle soit haute et basse, longue et large, en verre ou en métal. Enfin, bref, il était complètement... il n'arrivait plus à associer les... Alors, il a essayé de procéder en fonction d'exemples qui lui ont paru réussis. Notamment la salle Le Pelletier, la salle qui a précédé et qui a été très critiquée, c'était elle que Berlioz critiquait de façon très très féroce. Bon, néanmoins, il était un des seuls, Berlioz, à la critiquer. Généralement, on reconnaissait que la salle Le Pelletier était une bonne salle. Donc, il s'est largement inspiré, pour d'autres raisons aussi, pour des raisons architecturales, parce que c'était une salle qui s'inspirait elle-même de Victor Louis, pour lequel il avait une vénération et qui l'a inspiré tout au long de son chantier. Et donc, il l'a repris des recettes pratiques qui lui ont paru réussir. Et puis, à la fin, il a fait des essais, il s'est aperçu qu'il avait réussi, et très honnêtement, il dit, j'ai réussi, mais je n'y ai absolument aucun mérite, et je ne sais pas pourquoi. Quant à l'acoustique des salles, certainement, il y a une science de l'acoustique, certainement très respectable, mais moi, je suis bien obligé d'avouer que je n'y entends rien du tout. En gros, le constat de Garnier.
Alors, il y a cette question de l'acoustique, et puis il y a une autre question qui demanderait presque un développement en soi, uniquement, c'est la question de la place dans la ville. Et ça encore, on le retrouve, ce sont toujours les mêmes débats. Je crois qu'à Pékin, ce débat est assez chaud, dirons-nous, Paul Andreu.
Oui, il est très chaud parce que l'opéra est au centre même de la ville.
Ah, quand
centre,
on a le plan, hein, moi je ne sais jamais dans la ville quand j'ai le plan, là c'est vraiment à côté de Tiananmen.
Oui, c'est à côté de la place Tiananmen, c'est dans l'endroit où tout se concentre, hein, l'histoire avec la cité interdite, Tiananmen, l'histoire récente, le palais du peuple, c'est l'Assemblée nationale, et nous on est juste à côté. Hein. Et donc ça reproduit admirablement ce que Gérard Fontaine dit dans son livre, où pouvait tant construire l'opéra au centre même de la ville et pas ailleurs.
Dans une ville, à l'époque, Haussmann refaisait complètement et où l'opéra était le cœur.
Où il
quand
faisait
même,
une ville idéale, en plus. Une ville qui avait rendez-vous avec le rêve, précisément. Donc il fallait que l'opéra soit dans son cœur.
Mais dans ce qu'on a entendu là, de ces jeunes lycéens, ils disaient qu'il faut que ça soit un palais.
Ils ont tout compris, d'ailleurs. Oui. Je crois qu'ils ont compris l'essentiel. que c'est une féerie, ils ont compris que le spectacle était dans la salle. Enfin, ils ont,
senti instinctivement. C'est une liturgie profane qu'il faut construire. C'est donc un bâtiment
exactement,
pour une liturgie profane.
Exactement. C'est un lieu où l'homme rencontre le mythe, retrouve le mythe. Et ça doit être un bâtiment mythique, pétri de mitre, et pas bâti n'importe où. De ce point de vue-là, d'ailleurs, c'est une des réussites de l'Opéra Bastille, à mon avis, c'est que c'est à la Bastille, qui est un des lieux mythiques de Paris. C'est une des réussites de ce projet.
Ce qui réussit pour vous, c'est la place de la Bastille.
Ah non, c'est pas. Ne réduisez pas mon propos à cette simple considération. Bastille a aussi d'autres qualités. Ouais. Mais en tout cas, c'en est une indiscutablement de mon point de vue. On aurait construit l'Opéra Bastille sur les boulevards extérieurs, c'était pas la même chose.
Mais c'est intéressant de voir en parallèle dans ces histoires qu'effectivement Garnier naît à un moment où la ville se transforme, qu'à Pékin, ça va transformer la ville, cet opéra a une sorte d'action agissante très forte sur la vie sociale aussi.
Oui, si vous voulez, moi je me rends bien compte à Pékin que l'opéra est un bâtiment dont la nécessité n'apparaît pas comme ça. On peut décider de toute une série de bâtiments, des gares, des aérogares, des postes, en disant c'est la nécessité. L'opéra, on est dans le désir, le plaisir.
Et souvent l'idée de luxe,
on peut en discuter. Oui. Et d'un seul coup, alors la discussion se prend et enfle. Et elle est très bonne. Hein. Et d'un seul coup aussi, ce bâtiment devient une espèce de point focal que tout le monde regarde, un point d'où on regardera après la ville, d'où il se passe des tas de choses. Et on ne sait plus très bien. Vous voyez, moi, je me suis avisé il n'y a pas longtemps du tout que ça avait quelque chose à faire avec l'utopie aussi. Hein, c'est-à-dire ce lieu qui n'existe pas, qui est dans la distance.
Est-ce que vous l'avez mis sur une île?
Alors moi, je l'ai mis sur une île. Je me suis trouvé formidable par après, quoi. Hein, je me suis découvert formidable. Je ne le savais pas, quoi. Mais c'est vrai que c'est le lieu de ce qui est désirable, de ce qui est possible et en même temps inatteignable. Moi, j'ai pas arrêté dans le concours de dire aux gens, au jury, c'est le monde de la fiction et du rêve. Voilà, il faut aller là. Hudson disait, il y a un caractère processionnel. Hein, et c'est pour ça qu'il a fait ses grands emmarchements à Sydney. Donc on tourne toujours autour de ça, de ce lieu qui est un joyau au milieu, qui est le monde absolu du rêve, voilà.
De ce que vous citez Proust et vous dites de ce qu'au fond d'habitude on ne connaît pas, c'est-à-dire la vraie vie qu'on ne connaît pas. Ouais. Alors je vais renvoyer nos auditeurs donc à vos deux ouvrages concernant Garnier, Gérard Fontaine, Palais Garnier, le fantasme de l'opéra, Noésis. Ils pourront à la fois tout savoir et rêver aussi parce que c'est un livre à la fois très concret, très poétique. L'opéra et le deuxième c'est l'opéra de Charles Garnier, architecture et décor extérieur aux éditions du Patrimoine. Et puis, il y a beaucoup de choses qui sont sorties sur l'opéra, je vais vous les donner rapidement. Il y a 4 siècles d'opéra chez Larousse, 140 œuvres lyriques de la Renaissance à nos jours, Marie-Christine Villa. C'est bien, c'est une façon d'entrer, de l'avoir sous la main quand on a envie d'aller à l'opéra. Il y a l'opéra mode d'emploi aussi de l'avant-scène opéra, qui est un peu le même projet, mais peut-être moins précis. Il y a un classica, un mensuel musical hors série guide de l'opéra, Télérama Verdi, spécial Verdi. Et puis il y a un très beau livre qui s'appelle de Opéra de Paris, les corps de métier, une tradition, Olivier Palade, édition France Delory. C'est vraiment vu par la coulisse et par l'artisanat. Ce sont des très très belles photos. Et puis il y a quelque chose de très drôle, c'est une méthode assimile évasion, l'italien pour fan d'opéra. Voilà, alors si je vous dis Gérard Fontaine, vous qui savez quelle chose est amour, voyez si je l'ai dans le cœur, vous me répondez quoi en italien?
Pardon, je n'ai pas... pas fait attention. Là.
Vous qui savez quelle chose est amour, voyez si je l'ai dans le cœur. J'ai sorti de la méthode assimile.
Oh là là.
Voyez que ça pète.
C'est
les noces de Figaro. Voilà, les noces de Figaro. Et puis on va conclure avec une phrase de Garnier.
Je pourrais vous le chanter pour pardonner.
Voilà, vous allez nous le chanter. Merci. Vous allez nous le chanter après. Alors donc une dernière phrase de Garnier, je suis sûre que vous allez beaucoup aimer, Paul Andreu. Il n'y a pas à choisir dans les arts, il faut être dieu ou architecte.
Thank you. Alors vous avez le sentiment, Maria Callas, de devenir inutile ?
Exactement. Je suis complètement inutile. Complètement inutile, alors là. C'est triste à dire, mais c'est comme ça.
Maria Callas, donc au micro de Philippe Calloni en mars 1976, qui se sentait inutile et pourtant elle a rayonné bien après elle. On vient d'entendre, l'Ariane vous aura été épargnée dans cette émission, quelque chose qui s'appelle Callas, écrit avec un K mais qui est inspiré par Maria Callas, vous l'avez encore. Et donc c'est Virginie Icard, c'est une perle de notre discothèque, hein, François Connard.
Ah oui, c'est un incunable, c'est un incunable.
On va peut-être essayer de le vendre. Non, on ne peut pas, ça appartient au service public. Bon, mais alors, c'est intéressant parce que ça rayonne. Il y a un opéra contemporain aussi de Michael Dougherty. Vous y avez échappé, ça. Écoutez, soyez quand même contents. Un dialogue entre Maria Callas et Jackie Onassis. Voilà, absolument. Donc, Maria Callas, elle est un peu dans tous ses états. On ne sait plus très bien lesquels. Et donc, 25 ans plus tard, cette légende. 23 ans plus tard, excusez-moi, parce que là, j'ai affaire à un amoureux fou, donc il ne faut surtout pas faire d'erreur qui pourrait le blesser. Donc 23 ans plus tard, vous comptez chaque minute depuis septembre 77.
Hein, c'est cela.
Donc elle est aussi une valeur marchande. Alors, il y a eu beaucoup de ventes aux enchères. On a eu récemment Barbara, il y a eu Elvis Presley, il y a eu Marilyn Monroe. On peut même maintenant, je viens de découvrir, acheter des testaments de stars sur Internet. Je ne sais pas quel est l'intérêt, mais il semble que ça s'arrache aussi beaucoup. Et donc, on avait envie d'aller voir un petit peu de plus près dans cette vente, un avant, un pendant, un après, et puis parler ensuite de ce qu'on peut aujourd'hui nous proposer et dont on ne sait plus très bien comment s'y retrouver. Alors, François Connard, vous êtes allé avec Olivier Guérin, donc à moult reprises pour pouvoir suivre ce qui s'était passé. On va voir que vous avez vraiment rencontré des milliardaires, des archéo-hellénistes, des mystiques. Des hommes d'affaires libano-ukrainiens, bon, enfin bref, beaucoup de monde.
Alors évidemment, il y a une scénographie qui est assez pensée parce qu'on passe de l'antichambre à... Après, on arrive sur la scène reconstituée. Et je trouve que de visiter d'ailleurs l'exposition avec en fond sonore les applaudissements, moi, ça me serre la gorge. Je me sens très, très émue. Et puis, je me suis arrêtée aussi aux lettres, et notamment aux lettres des admirateurs, parce qu'il y en a dans toutes les langues. J'ai remarqué dans une vitrine une lettre d'une jeune fille... qui dit qu'elle a 13 ans, que c'est une grande admiratrice de la Callas, et que bon, elle habite un petit village d'Italie, donc elle a 13 ans et qu'elle pense qu'elle a une jolie voix, et ça date de 58. Et je me disais, tiens, cette jeune fille, est-ce qu'elle est devenue chanteuse? est-ce qu'elle a vu sa lettre? Que sont devenus tous ces gens qui lui ont écrit, qui l'ont aimé, qui ont manifesté leur admiration ou leur soutien? Donc il y a ça. Il y a aussi il y a un petit poème en grec qui a été écrit après le concert au théâtre des Rhodaticus à Athènes. C'est drôle parce que ma mère m'a souvent parlé de ce concert auquel elle n'a pas pu assister parce qu'elle n'avait pas eu de place, et il se trouve elle vivait à Athènes à ce moment-là, et elle me dit que par contre elle s'est promenée dans Athènes et que tout Athènes vibrait de la voix de la Callas. Tout le monde s'était arrêté, les taxis étaient arrêtés, les fenêtres étaient ouvertes, enfin c'était retransmis à la radio, et il paraît que c'était un moment complètement magique, enfin de voir Athènes vide et l'entendre la voix de Callas partout.
Une mégalima Selenisa, vous oxazit une patrisamas, mégapi, Eleni Anki. Pour la traduire rapidement, voilà, à l'occasion du Nouvel An 1958, j'espère que pour vous, comme pour Monsieur Medeghini, l'année 1958 sera très heureuse et que vous aurez beaucoup de succès, comme vous en avez toujours eu. Et j'admire beaucoup votre grand talent qui honore notre patrie. Et ce qui me touche beaucoup, c'est cette idée justement de patrie. C'est-à-dire, comme vous le savez, Maria Callas est née aux États-Unis Mais l'hellénisme dépasse les frontières et des grands noms de l'hellénisme, que ce soit en littérature, que ce soit dans l'art lyrique, en l'occurrence pour Maria Callas, ne sont pas cantonnés à ce que Séphéris appelait justement ce petit pays avec ses petites frontières. Quand il a prononcé son discours Nobel, il a commencé par dire qu'il était d'un petit pays aux frontières exiguës. Et l'hellénisme dépasse largement cela. Alors, évidemment, j'avais quelques scrupules à vous lire ce texte parce que moi, je suis un archéo-helléniste qui m'intéresse de très près à la Grèce contemporaine. Moi, ce qui me touche, c'est le caractère éternel de cette langue et de cette culture. C'est-à-dire que les racines de Maria Callas, même si elle est née aux États-Unis au XXe siècle, elle puise au tréfonds de la culture humaniste et de la culture qui puise ses sources dans la Grèce antique. Et cette exposition m'a beaucoup intéressé parce qu'elle permet d'avoir une image de toute la carrière de Maria Callas, non seulement en ce qui concerne l'art lyrique, bon, il y a des souvenirs, des vêtements de scène, etc. Mais bon, il y a aussi ses dessins. Et ça, c'est quelque chose qui m'a profondément bouleversé parce que je ne savais pas que cette collaboration avec Pasolini avait atteint cette proximité. Il a réalisé, il a dessiné des portraits de Maria Callas lors du tournage de Médée. Ce lien entre la Grèce ancienne et la Grèce contemporaine, même au-delà des frontières, c'est surtout à travers ses dessins que j'y ai été sensibilisé ce soir. Maria Callas avait éprouvait la nécessité intérieure d'interpréter ses rôles, que ce soit sur la scène lyrique, que ce soit au cinéma. Et en même temps, elle était, j'imagine, effectivement, au quotidien, une Grecque, c'est-à-dire avec une Grecque d'aujourd'hui.
Et après, il y a les tableaux de Pasolini. J'ai trouvé beaucoup de choses sur le rapport Callas-Pasolini. J'ai les lettres qui, dans mon exposition que Callas a écrit à Pasolini. J'ai beaucoup de choses qui se portent avec l'exposition dans le monde et qui ne seront jamais vendues.
Je crois que je ne voudrais pas d'objet de Callas. Sauf quelque chose qui lui était très proche et qui me plairait. Mais je n'ai pas le sens de posséder quelque chose de quelqu'un comme Callas. Tout ça était à elle. Je ne peux pas m'imaginer dans une robe de Callas. Non, je ne peux pas. Je veux une robe à moi. Et que celle de Callas, qu'elle aille dans un musée, qu'elle soit à tout le monde, comme Callas est à tout le monde. Je regrette énormément que ça ne se soit pas fait pour créer un musée Callas. Malheureusement, c'est comme ça, c'était la même chose avec Nureyev. On avait prévu un musée Nureyev. Bon, tout ça vient à la vente. Tous ces objets viennent à la vente, qui tenaient plus ou moins au cœur des artistes qui les avaient possédés. Je ne dirais pas non pour la petite sainte famille qu'elle emportait toujours avec elle, qu'elle réclamait quand elle l'avait oublié, où elle demandait qu'elle lui soit apportée par avion, par courrier exprès, etc. Ça, oui, je l'aimerais bien.
Ça va quand même du verre doseur qu'on trouverait normalement dans les grandes surfaces à 30 francs et du verre doseur donc jusqu'au manteau en vison.
vu l'étonnement de certaines personnes qui se trouvaient à côté de moi, de trouver Richard Strauss, une partition de Richard Strauss, parmi les partitions que Callas chérissait certainement et collectionnait aussi. Mais c'est étonnant, peut-être, moi je ne trouve pas du tout, parce que Callas intéressait à toute la musique de cette époque, comme elle avait chanté Wagner, et avec bonheur, il faut dire, une country, une très belle country, une très belle distribution en italien, elle pouvait tout chanter, Callas. Et plus ou moins de bonheur peut-être, mais ça aurait toujours été très beau. Et enfin, tout l'impact dramatique de Richard Strauss, je la vois en Electra, bah, elle aurait brûlé les planches, elle aurait brûlé le plafond de l'opéra, peut-être que le lustre serait descendu, voilà.
Les partitions, il n'y en a pas énormément. Justement, j'étais un peu déçue qu'il n'y ait pas assez de partitions. Il y en a une, il y a La Force du Destin, avec Léonore soulignée en rouge. Ça, c'est assez émouvant, mais je m'attendais à ce qu'il y ait d'autres partitions ouvertes, là où il y a des annotations de la Callas. Vraiment, là, c'est ce que j'attendais un peu. Et moi, si je pouvais me porter acquéreur de certains objets, ce serait d'une part les partitions, parce que c'est un témoin de son travail d'artiste, et puis des affiches, il y a une belle affiche de la Traviata, des photos aussi, mais c'est tout ce qui est objets, meubles, le fait de savoir qu'elle vivait dans ces meubles-là, moi ça, franchement ça me laisse assez indifférente, je pense que ça peut intéresser des antiquaires, peut-être pour la valeur des objets, des meubles signés ou de telle époque. Franchement, moi non, ça me parle pas du tout. Je ferais peut-être une exception pour certains lutrins. Parce que bon, c'est un objet. D'abord, ils sont très beaux. Je trouve qu'il y en a un du 18e, je crois. Et puis, je me plais à imaginer qu'elle a posé des partitions là-dessus. Enfin, c'est tout ce qui a un lien à la Callas, l'artiste lyrique. C'est ça que je trouve beau.
Les lunettes, ça me touche énormément, comme je suis moi-même tellement myope, n'est-ce pas? Et je l'imagine, ça me rapproche d'elle. Les lunettes me rapprochent d'elle, mais le fait de la savoir si myope m'a toujours touchée, parce que certainement, elle a souvent eu des impressions dans la vie que chez moi, on voit tout adouci quand on est myope de naissance, surtout, n'est-ce pas? On est habitué. Jamais quelqu'un aurait pu, une cantatrice qui serait devenue malvoyante subitement à 30 ou 40 ans, aurait pu faire sur scène ce que Callas a fait sur scène. C'est parce qu'elle était parfaitement adaptée, n'est-ce pas? Et je crois que cela, je ne peux pas le déceler à quel endroit, mais je crois que très souvent, cela s'est transmis à la création de ces personnages. Parce que de ne pas voir le chef d'orchestre, c'est comme à l'école, de ne pas voir ce qui est inscrit au tableau noir, ça fait rêver, ça fait extrapoler, ça fait aller beaucoup plus loin que la vérité vraie, hein, que la réalité crue et nue. Non, j'imagine Callas un peu comme ça, et ça me rapproche évidemment d'elle.
Et pour cette seule paire de lunettes tenues de Maria Callas, qui était très importante, nous débutons les enchères sur commission à 50 000. À 50 000, 55 000, 60 000, 65 000, 70 000, 75 000, 80 000, 90 000. À 90 000 enchères à ma droite. À 90 000, en veut-on à ma gauche, 100 000, 110 000, 120 000, 130 000, non, à 130 000 enchères à ma gauche. C'est bien vu, à 130 000 francs, personne ne couvre les enchères de 130 000 francs pour la paire de lunettes en écaille. À 130 000 francs, c'est bien vu, je te juge, sans regret, à 130 000, c'est vous, à 130 000, c'est bien vu. Adjugé 130 000, acheteurs 13.
Voilà, eh bien, j'ai acheté un télégramme envoyé à Maria Callas par l'archevêque de Milan, Giovanni Battista Montini, en 1957. Et voilà, l'archevêque est donc devenu le pape Paul VI par la suite. J'aime beaucoup Maria Callas. Et je suis catholique aussi. La musique est donc l'art sacré par excellence. Dans la foi catholique, la personne qui s'occupe de la musique est Sainte Cécile. Une femme. Nous disons bien que Marie est la nouvelle Ève, ce qui veut bien dire que Ève est innocente. Et donc tous ces symboles sont réunis dans ce télégramme de l'archevêque de Milan à Maria Callas, parce qu'il représentait la foi catholique. Il a envoyé ce télégramme à une cantatrice qui s'appelait Maria.
Une ambiance folle dans la salle. Il y avait beaucoup de gens très bien habillés, très chics, mais qui étaient là pas pour acheter, pour voir. Il y avait beaucoup de journalistes et il y avait beaucoup de gens au téléphone. Que j'ai commencé un petit peu à avoir une idée qui pouvait être derrière ces appels et tout ça, des gens sur Internet, diffusion en direct et tout ça. Mais ce que j'ai trouvé très très étrange, c'était la présence d'une délégation, pas armé dans le sens des armes, mais vraiment adjoint maire de la mairie d'Athènes. Je comprends qu'il soit là avec le premier secrétaire de l'ambassade et la présidente de la fondation, mais le but de leur présence était un petit peu spécial. Et ils avaient une manière un peu agressive avec l'achat qu'ils faisaient. Ils se levaient toujours pour parler. Parfois, ils avaient des regards un peu méchants. Et moi, bon, j'étais comme tout le monde, un petit peu curieux par cette présence-là. Et puis, une fois, la dame, la présidente de la fondation, j'ai vu qu'elle avait du mal à acheter la mèche du cheveu. Et en même temps, j'apprends qu'en fait, elle veut l'acheter pour la brûler. Et là, en espèce de quelques secondes, je m'aperçois que c'est pas bon de faire ça. Bon, si elle brûle ses vêtements, c'est une chose, mais la mèche de cheveux a une importance scientifique, pas seulement historique. Et finalement, j'ai dit, moi, je l'achète. Et je l'offre à la fondation, je l'ai dit en public, mais à condition que la fondation ne le brûle pas, qu'elle le conserve. S'ils ont un musée, le mettre dans un musée. Bon, la dame, elle s'est effondrée en larmes, elle est venue m'embrasser. Merci beaucoup, mais j'ai dit oui, merci, mais il faut quand même une garantie que vous n'allez pas brûler la mèche de cheveux. Il m'a dit, ah ça, je peux pas vous garantir.
Le lot 91... Mèche de cheveux Maria Callas en châtain retenu par deux nœuds de satin rose et noir. Débutons les enchères à 40 000. À 42 000, 42 000, 45 000, à 48 000, 50 000, 52 000, 55 000. 58 000, 60 000, 62 000, 65 000, 70 000. 72 000, 75 000, non, à 18 000, non, à 78 000 enchères à ma gauche. C'est bien vu, à 78 000, personne ne couvre les enchères. De 78 000, j'adjuge sans regret, à 78 000, adjugé 78 000, acheteur 27.
J'ai acheté des pièces importantes d'une vente que je considère importante, mais je ne suis pas prêt à mettre ma vie pour Maria Callas ou quelque chose comme ça. J'ai acheté deux pièces importantes, l'affiche de la Traviata à La Scala en Italie. J'étais pas le seul apparemment qui avait envie de l'acheter, et puis le prix de départ était très très petit, et finalement j'étais obligé de l'acheter à 110 000 à peu près, alors que le prix initial était 3 000 francs. Mais j'ai entendu dire qu'il était au téléphone en train d'essayer aussi de l'acheter. Et quand j'ai compris qui c'était, je ne peux pas le divulguer parce que je n'ai pas le droit, je suis maintenant un peu plus fier de l'avoir pris de ce monsieur-là. C'est une personnalité internationale qui voulait, en même temps que moi, avoir cette affiche-là. Et puis vous savez, quand on achète une pièce, ce n'est pas très intéressant puisqu'on est dans... on était dans une vente aux enchères qui ne va pas arriver tous les jours non plus. Tant qu'à faire, vaut mieux avoir 2-3 pièces qui sont quand même spéciales. Je ne voulais pas acheter une robe à Maria Callas. D'ailleurs, la mèche des cheveux, ce n'est pas pour garder moi-même de toute façon. Maintenant, j'ai une proposition d'un musée à Genève. Si la fondation ne va pas vraiment m'écrire pour me donner les garanties, bon, je ne vais pas garder la mèche à la maison. Je vais la donner à un musée. Dans l'avenir, ils sauront quoi faire avec. Alors, les 3 pièces que je vais garder, c'est effectivement le programme, c'est l'affiche de la Traviata, et puis la médaille qui est aussi sublime. Je suis très fier. Vous savez, si un jour, comme vous voyez, les auditeurs ne peuvent pas voir où on se trouve, mais chez moi, j'ai beaucoup de pièces uniques. Mon pied-à-terre parisien, ce n'est pas ma maison principale, parce que ma maison principale, elle est en Ukraine. J'ai une grande datcha, là où j'ai vraiment des pièces du monde entier. Mais même mon pied-à-terre parisien, j'ai des pièces. Si un jour... on dirait, bon, t'as pas été un bon pianiste, t'as pas été un bon compositeur, t'as pas été un bon homme d'affaires, bon, t'étais nul, quoi. Je veux dire, oui, peut-être, mais j'ai quand même pu avoir une bonne collection de différentes pièces qui viennent de différentes parties du monde et qui appartiennent à différentes cultures et siècles.
Voilà, donc c'était ce parcours à l'intérieur de cette vente où on voit les beautés du fantasme humain en marche. Alors, il y a quelques semaines, on a fait une émission sur le psychédélisme et les hallucinogènes. J'ai un peu l'impression qu'il y en a qui avaient dû aller à cette vente, peut-être pas dans un état tout à fait normal, tu sais, François Connell.
Mais effectivement, il y a des gens dont on pourrait penser qu'ils n'étaient pas dans un état tout à fait normal, mais tout est relatif.
État,
je crois,
oui,
quand on aime, quand on admire, on n'est pas dans le rationnel.
Non, absolument. Hein. Et alors d'ailleurs, je suis quand même... C'est très intéressant parce que on a eu envie de faire ce sujet ensemble, et puis voilà que vous avez acheté.
Et oui, je me suis laissé prendre au jeu.
Vous avez été piégé au jeu.
Alors, et oui, voilà. Mais il régnait une atmosphère surchauffée, et donc on se laisse prendre au jeu complètement.
Alors vous avez acheté, qu'est-ce qui vous a tout d'un coup poussé à acheter
des
un
symboles.
Lutrin, c'est ça?
Oui, des symboles forts, des symboles qui se résument des souvenirs de la vie artistique de Callas, à la fois une partition et un lutrin. Cette partition, c'est une œuvre qui est étonnante, en ce sens que c'est une œuvre qu'elle n'a jamais chantée en public, qu'elle n'a jamais enregistrée, mais qu'elle a travaillée. Et je peux le dire de quoi il s'agit, c'est la scène de Bérénice, de Haydn, qui est à rapprocher du Aperfido de Beethoven. C'est vraiment ce même univers du tournant de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle. C'est-à-dire une œuvre de figures héroïques, antiques, qui, à mon avis, aurait été parfaitement profilée par Callas.
Vous êtes comme la dame qui la voyait dans tous les rôles possibles.
Mais oui, je ne sais pas si elle pouvait réellement tout faire, tout chanter, probablement pas, ne serait-ce que du point de vue du handicap de la langue. Je pense que par rapport au répertoire allemand, elle n'aurait pas pu chanter Richard Strauss, même si elle a chanté Wagner. Elle a chanté Wagner à une époque où on pouvait se permettre de le chanter en traduction italienne. C'était au début des années 50. Lorsqu'on a fait des propositions, d'opéra de Richard Strauss, on a proposé Salomé, par exemple, à Callas. C'était dans les années 60, et là, il n'aurait été inimaginable que quelqu'un de sa notoriété s'attaque à cet ouvrage en traduction italienne. Donc, elle a préféré renoncer, puis de toute façon, elle avait arrêté de chanter.
Donc, vous voilà propriétaire d'une partition et d'un lutrin. Et alors, justement, ça m'intéresse beaucoup, parce que moi, je me suis souvent posé la question par rapport à des gens que j'aime beaucoup, et où on m'a proposé parfois un autographe, des prix très chers. Pas vraiment envie de posséder ça. Alors, le lutrin, qu'est-ce que vous allez en faire?
Je peux vous répondre très spontanément. Il est installé dans mon intérieur et j'ai déjà déposé plusieurs partitions, dont la partition qui appartenait bien évidemment à Maria Callas, mais beaucoup d'autres.
C'est bien, on peut faire de la psychanalyse en direct.
Mais je suis un peu musicien, alors ça n'est pas de la mise en scène.
Non, François, je sais bien que ce n'est pas de la mise en scène. Alors, on va parler un petit peu quand même, parce que chaque fois, on nous sort une nouvelle compilation. Alors là, on en a une, Maria Callas, mm-hmm. la légende. Mm-hmm. Et c'est important de se demander un petit peu si ça vaut le coup ou pas, parce que quand on est devant un bac Maria Callas et qu'on n'est pas, comme vous, spécialiste mm-hmm. du mm-hmm. moindre de ses soupirs ou du moindre mm-hmm. de ses notes, on ne sait plus trop quoi.
Mais on s'y perd un peu. Je dis ça d'emblée parce que EMI, qui est, rappelons-le, le label d'exclusivité des enregistrements en studio de Maria Callas, j'ai pas fait n'importe quoi, mais mélange allègrement des enregistrements qui appartiennent à des horizons très différents. Et lorsqu'on est censé faire une promotion sur, vous voyez, la dernière, c'est Maria Callas, La Légende, 1923-1977, on a eu D'art et d'amour, on a eu d'autres, voilà, d'autres slogans très publicitaires. On est censé quand même être aux petits soins pour l'auditeur, pour l'acheteur, qui n'est pas forcément un grand connaisseur d'opéra. Et là, je trouve que cette façon de tout mettre dans le même sac, ça n'est pas rendre service à l'artiste. Car faire voisiner la scène d'Adrienne Lecouvreur, qui était au zénith vocal de Callas, ça s'est enregistré en 1954, avec la Bannera de Carmen en 64, c'est-à-dire au moment où elle se retire de scène, la voix a été limée, la voix est usée. Je suis désolé, il faut prévenir.
Là, est-ce qu'il n'y a pas un autre problème? Parce que moi, je me posais la question en l'écoutant. C'est presque une question de fond sur l'opéra, ça, mm-hmm. Mais aussi sur Callas, en l'occurrence. C'est que, assez vite, je me suis rendu compte que je m'ennuyais terriblement. Et alors, je me suis dit, oui, je sais bien, c'est horrible ce que je vous dis, mais je m'ennuyais. Et pourtant, j'aime Callas. Et je me suis dit, mais est-ce que la compilation, moi j'ai rien contre les compilations, mais d'opéra, est-ce que le plaisir de l'opéra, ça n'est pas l'attente, ce n'est pas les tunnels où on s'ennuie un peu, mais où on sait que va arriver cette perle qu'on aime tant et qui va durer 4 minutes, mais qui peut-être ce soir-là sera sublime. Et tout d'un coup, cette compilation de perles fait qu'il n'y a plus du tout cet enjeu-là. Et ma foi, je ne sais pas, alors c'était peut-être moi qui dans cet instant-là avait une froideur lyrique, mais quand même, je trouve que ça pose la question... Alors, évidemment, écouter un opéra dans son intégralité, parfois c'est beaucoup, mais le mettre en situation, et surtout quand c'est Maria Callas, qui est quand même le théâtre incarné.
Bien sûr. Mais pour rendre justice au travail d'édition de EMI, cette dernière compilation n'apporte rien puisqu'il n'y a absolument aucun inédit. Mais en revanche, dans des albums précédents, on a ressorti des enregistrements qui étaient des prises sur lesquelles elle avait mis son veto pour des raisons strictement artistiques, une respiration qu'elle jugeait anti-musicale et qui ont été publiées post-mortem. Alors on peut se dire, bon bien sûr, on ne respecte pas sa volonté. Ce sont des documents qui, pour l'histoire du chant, sont très captivants, parce que ça nous montre déjà quel était le standing de la cantatrice, qui allait jusqu'à même réprouver une respiration anti-musicale. Et puis, on se rend compte aussi de ce travail incessant, inlassable, perfectionniste, pourrait-on dire, qui l'animait. Elle réenregistrait certaines scènes, 6 mois après, elle revenait sur un travail qui semblait achevé, mais qu'elle voulait perfectionner, améliorer.
Alors, qu'est-ce qu'il faudrait acheter si on en avait un à acheter? Parce qu'en plus, là, c'est le moment où tout le monde va
alors,
se jeter sur l'achat.
Alors, on peut acheter cette compilation EMI. C'est un double album agrémenté d'une interview inédite qui a été faite au micro de Philippe Calogny, un confrère.
Alors, l'interview, elle est intéressante parce que sa voix parlée est aussi belle que sa voix chantée. Enfin, je trouve qu'elle a une présence très forte parce qu'elle y témoigne de beaucoup de choses. Bon, on n'y voit pas un personnage très progressiste. Hein. Bon, on le sait, mais c'est vrai. En la réécoutant, bon sang, ses avis sur les metteurs en scène, le pauvre Lavelli, par exemple, c'est de l'époque de Faust, je suppose,
Faust qui a fait scandale.
Il est très très maltraité. Ses avis sur les rôles, parfois aussi, pas toujours.
Mais je crois que c'est aussi une partie du drame Callas, c'est que c'est quelqu'un qui, en elle-même, avait quelque chose de profondément novateur. Il y avait une profonde modernité dans l'approche dramaturgique des rôles, et en même temps un souci de respect extrême. Elle se disait elle-même l'humble servant des compositeurs. Alors on peut se dire que bon, c'est une preuve de grande humilité quand on est quelqu'un d'adulé comme elle. Mais quelque part, il y avait probablement aussi même dans le répertoire une volonté de s'attacher aussi à un répertoire assez classique, il faut le reconnaître, même si elle a participé à des exhumations fameuses, enfin, notamment dans les Donizetti, Anne Boleyn, des ouvrages comme ça n'avaient été jamais donnés au XXe siècle.
Donc, vous nous disiez, parce qu'on arrive au terme de cette émission, François.
Alors, je recommande une réédition qui date de cette année. Hein, c'est la marque Chetra, qui était première compagnie pour laquelle Callas a enregistré. Et on vient de rééditer donc ses premiers récitals, qui comportent donc le Liebestod, la mort d'Isole, chantée en italien, voilà, je le rappelle. Ouais. C'était le 8 novembre 1949. Et puis des extraits tour à tour de Norma, des Puritains, de la Gioconda et bien sûr de la Traviata. Voilà.
Et puis peut-être juste citer, parce qu'on n'a pas beaucoup le temps pour en parler, un livre.
Alors, un livre vient de paraître là, en cette fin d'année 2000, qui est un ouvrage qui est très documenté, de Nicolas Gage, Onassis et la Callas. Alors l'intérêt de cet ouvrage, c'est qu'il jette un peu plus de précision et de jour sur, et de lumière sur l'idylle très controversée entre Callas et Onassis. On apprend entre autres que Callas a bien eu un enfant d'Onassis, un enfant mort-né. Ce qui explique, vous allez me dire, c'est vraiment très anecdotique et très privé, ça explique tout de même cette disparition très brutale de Callas entre 59 et 60. Elle ne met pas les pieds sur une scène, elle n'entre plus dans les studios d'enregistrement.
Onassis n'a pas beaucoup aidé à chanter, parce qu'il
voulait
très dur.
Hein, il voulait qu'elle arrête de chanter, ça c'était très, très
donc, net. Donc redites-nous peut-être le titre.
Donc Nicolas Gage, Onassis et la Callas, une tragédie grecque des temps modernes, aux éditions Robert Laffont.
Voilà, alors Callas n'aimait pas beaucoup le personnage de Carmen, même si elle l'a chanté fort bien, ce qu'on a au disque en tous les cas.
Elle n'a jamais chanté sur scène,
sûr,
mais
disque,
elle l'a chanté
au disque. Et on va quand même se quitter avec une autre vision encore de Carmen, un Carmen remixé, d'abord réinterprété par Marc-Olivier Dupin et remixé par Dr. Flinks. À la semaine prochaine. Décibel, une émission proposée par Jeanne-Martine Vacher, mixée par Patrick Dupont. Cette semaine, j'ai oublié de dire, avec la collaboration de François Connac et Anne de Biran, comme chaque semaine. Et puis, bien que maintenant il fréquente des milliardaires lyriques, Olivier Guérin a bien voulu quand même réaliser ce soir cette émission. Allez.
Cette émission a été diffusée le 11 décembre 2000 sur France Culture.